présence. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver les pas, pour éprouver par les ailes les autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fissiez enrichi. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui, non seulement vous avez commencé à agir, mais qui avez eu la volonté de l'année derrière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. 12. La bonne volonté, car elle existe, elle est agréable à raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait l'égalité. 15. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'a manqué pas. C'est la parole du Seigneur.
Merci beaucoup. Nous lisons, pendant que notre serviteur s'avance à la chair, nous lisons aussi Marc chapitre 12, le 41e verset jusqu'au 44e. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Jésus s'était assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vit aussi une pauvre veuve. Et il y mit deux petites pièces faisant un quart de sceau. Alors Jésus ayant appelé ses disciples et leur dit, « Je vous l'ai dit, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tout ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment merveilleux que tu nous accordes pour que nous puissions t'écouter. Merci d'avoir apprêté ton serviteur que tu as outillé pour qu'il nous partage de ta parole. Aide-nous, Seigneur, et permets à ce que nous soyons attentifs à t'écouter. Éloigne-nous de tout ce qui peut nous distraire à ce moment. Nous avons besoin de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bonjour, peuple du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous offre de partager sa parole avec vous autour du thème « Se donner au Seigneur, tel est le secret des libéralités conséquentes. » Se donner au Seigneur, tel est le secret des libéralités conséquentes. Le texte vient de nous être lu. Celui de 2 Corinthiens chapitre 8, du 1er au 15e verset, qui sera le texte fondamental autour duquel nous allons méditer pour comprendre que les libéralités sont le résultat d'une consécration au Seigneur. Le texte qui a été lu dans 2 Corinthiens, chapitre 8, qui a été adressé aux Corinthiens, aux croyants de Corinthe, à une église comme la nôtre ici, Paul est en train d'exhorter ses frères et sœurs de Corinthe à s'inspirer de la manière dont les croyants des églises de la Macédoine sont engagés à l'œuvre du Seigneur et sont déterminés à apporter leur assistance pour faire avancer la bonne nouvelle. Leur assistance aux saints qui sont à Jérusalem, qui sont dans le besoin d'une assistance des frères et sœurs pour que l'Évangile puisse aller de l'avant. Et nous allons d'abord dans cette méditation parler de la libéralité des églises de la Macédoine. Ensuite, nous allons voir ce que Paul donne comme exhortation aux croyants de Corinthe. Et là, il leur demande d'exceller, c'est-à-dire de se dépasser dans le sens de l'amélioration de leur service. Et après, pour terminer notre message, nous allons parler de assister les saints ou servir le Seigneur sans s'exposer à la détresse. Les libéralités de nos frères et sœurs de la Macédoine apparaissent dans les Saintes Écritures comme un modèle tout à fait exceptionnel, mais qui peut nous inspirer. Parce que les Saintes Écritures déclarent qu'ils traversaient une situation de précarité indescriptible qui était caractérisée par beaucoup de tribulations. Beaucoup de tribulations, mais aussi par une pauvreté extrême. Ces frères et sœurs de la Macédoine vivaient une situation difficile à décrire. Mais paradoxalement, d'après ce texte, dans la situation de pauvreté extrême, dans la situation de tribulation, leur cœur était rempli d'une joie qui débordait. Une joie débordante dans la pauvreté extrême, mais une joie débordante. Au milieu de beaucoup de tribulations, c'est-à-dire de souffrances, de persécutions, mais une joie débordante. D'où venait leur joie? C'était la joie d'avoir reçu la bonne nouvelle de l'Évangile et d'avoir adhéré à l'Évangile et d'avoir ainsi accédé au salut. Ils avaient une joie tellement grande pour leur salut, que alors la pauvreté était incapable d'étouffer cette joie. Les tribulations, les persécutions ne pouvaient pas leur enlever cette joie. À cause de la joie qu'ils avaient pour leur salut, les Saintes Écritures nous disent que ils s'étaient donnés au Seigneur, nous dit le verset 5. Ils se sont donnés au Seigneur, à Jésus-Christ qui les avait sauvés. Une entière consécration. Une consécration au Seigneur sans réserve. Cette consécration au Seigneur les a conduits à se donner, à réaliser que tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils possédaient et tout ce qu'ils pouvaient espérer, leur être tout entier appartenait ou devait servir à glorifier le Seigneur et devait servir à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ils se sont donnés au Seigneur qui leur avait procuré cette joie du salut. Alors, tellement ils avaient réalisé la grandeur du salut, ici, nous lisons que ils se sont donnés au Seigneur et cela les a poussés à donner volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. À l'origine, c'était le salut qui a provoqué, qui a produit la joie. La joie les a amenés à se donner entièrement, sans réserve au Seigneur. Et alors, ils pouvaient contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu selon leurs moyens, non seulement selon leurs moyens, mais même au-delà de leurs moyens. Et l'apôtre Paul était émerveillé par leur manière de se consacrer parce qu'il continue à dire, ils nous ont demandé avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Autrement dit, nos frères et sœurs des églises de la Macédoine ont donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, au point de surprendre l'apôtre Paul et ses compagnons d'œuvre, c'est-à-dire ils étaient avec Silas et Timothée. Dans cette église, dans ces églises de la Macédoine, l'apôtre Paul ou les apôtres, Paul, Silas et Timothée, ils ont été émerveillés. Ils ont été émerveillés. Ils ont été surpris. Ils ont été étonnés par une aussi grande consécration des églises de la Macédoine. Lorsque nous lisons le verset 4, nous découvrons que les apôtres, voyant la situation précaire dans laquelle étaient les croyants de la Macédoine, les apôtres auraient même essayé de les exonérer de cette assistance, de cette collecte, parce qu'ils ont estimé qu'ils étaient trop pauvres pour qu'on attende d'eux encore aussi de contribuer. Les apôtres, ou l'apôtre Paul avec ses compagnons d'œuvre, auraient essayé de les empêcher de contribuer, de participer à cette collecte. Mais ceux-ci, c'est-à-dire les croyants de la Macédoine, ont alors insisté. Ils ont insisté auprès de Paul et de ses compagnons de ne pas leur priver la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Alléluia! Ils ont insisté. L'apôtre Paul dit, non, non, nous connaissons votre situation. Nous connaissons les conditions dans lesquelles vous êtes. Laissez les autres églises apporter, contribuer. Vous, essayez, voyez comment vous pouvez survivre avec vos maigres moyens. Mais ceux-ci ont alors insisté. Ils ont alors demandé aux apôtres de leur accorder aussi cette grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils ont compris que c'est une grâce et qu'il ne fallait pas louper cette occasion. Et les apôtres ont dû céder, dit, ok, comme vous tenez à donner tout ce que vous avez pour votre subsistance, ok, donnez. Ceux-ci ont été un peu comme cette pauvre veuve dont nous avons lu le texte dans Marc chapitre 12. Jésus a vu dans la synagogue plusieurs personnes, des riches, venaient déposer leur offrande dans le tronc. Et dans cette mêlée, il y a une pauvre veuve qui vient aussi avec ses deux petites pièces. On nous dit qu'il valait un quart de sou. Elle vient aussi avec ses deux petites pièces, consciente de sa pauvreté, probablement derrière tout le monde. Vous connaissez l'état d'âme de quelqu'un qui est pauvre. Elle vient tout doucement déposer aussi ses deux pièces d'argent dans le tronc. Et Jésus, voyant ce qui se passait, va dire aux disciples, cette veuve, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tous les autres, parce que elle a mis dans le tronc de son nécessaire, elle a mis tout ce qu'elle possède, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Et Jésus a apprécié l'offrande de cette pauvre veuve plus que celle de tous les autres qui avaient apporté de grandes quantités d'offrandes, parce que elle s'est dépouillée de tout ce qu'elle avait pour sa subsistance. Nos frères et sœurs de la Macédoine, dans leur état de dénuement, ils se sont dépouillés, ils ont dit non, c'est une grâce que nous ne devons pas louper, ne nous en privez pas. Laissez-nous aussi, laissez-nous profiter de cette grâce. Ce qui m'a un peu surpris en lisant ce texte, c'est au verset 2 où il nous est dit que dans leur pauvreté, plutôt, ce n'est pas dans leur pauvreté, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. La pauvreté de cette Église a produit, ensemble bien sûr avec la joie, elle a produit de riches libéralités de leur part. La pauvreté qui produit des libéralités. La pauvreté productive. La pauvreté, c'est un état que nous considérons toujours comme un mauvais état, une situation à fuir, une situation qui n'est pas souhaitable, la pauvreté. Mais ici, nos frères et sœurs de la Macédoine nous apprennent que même la pauvreté est un atout. Je sais que ça ne sonne pas bien dans les oreilles. La pauvreté se révèle ici comme un atout qui avait produit des riches libéralités pour le service de Dieu. Lorsqu'on se donne au Seigneur, même la pauvreté devient un atout pour le service de Dieu. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, et c'est, je crois, la première béatitude dans son discours ou dans son enseignement sur la montagne, sur les béatitudes. La première béatitude, il a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je sais que lorsque nous lisons ce verset, nous disons, il a parlé des pauvres en esprit. Donc on peut dire que, ok, là c'est le royaume des cieux est pour les pauvres en esprit. C'est vrai. Mais je voudrais, chers frères et sœurs, nous apprendre que la richesse matérielle, la richesse matérielle nous expose aussi à la richesse en esprit. La richesse matérielle nous expose à la richesse en esprit. Pourquoi? Parce que le riche, en fait, le riche en esprit, c'est qui? C'est celui qui dans sa vie, ne réalise pas qu'il a besoin de Dieu. Le riche en esprit, c'est celui qui se confie dans ses richesses. Il se confie dans les biens matériels. Il se confie dans ses relations avec les hommes. Il se confie dans ses capacités. Il trouve que dans ses forces, il peut se définir. C'est celui-là qui est riche en esprit. Et il devient donc quelque peu indifférent vis-à-vis de Dieu ou des choses de Dieu, mais aussi il considère qu'il est plus important, il est plus important que les autres qui n'ont pas autant que lui. Il est plus intelligent, il croit qu'il est plus intelligent, c'est pour cela qu'il a des richesses matérielles. Il est plus intelligent, il est plus capable. Alors cela développe en lui l'orgueil. Voilà le riche en esprit. Mais je disais que les richesses matérielles exposent à la richesse en esprit. Parce que le riche matériellement, il s'attache à ses biens, il accorde l'importance à ses biens matériels, il adore même ses biens matériels, il considère que ce sont ces biens matériels qui le définissent au milieu des autres. Et de cette manière, il devient idolâtre. Et la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Malheur, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. C'est pourquoi, lorsqu'on se consacre au Seigneur, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, sachons que nous sommes au Seigneur, appelés à servir le Seigneur, et même si les hommes, si la société peut estimer que nous sommes pauvres, réalisons que même notre pauvreté est un atout pour le service de Dieu. Alors, l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens à l'excellence dans l'œuvre de bienfaisance. Nous lisons au verset 7, « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Le croyant de Corinthe, dans cette présentation de l'apôtre Paul, ne se révèle pas comme des chrétiens médiocres. Ils étaient visiblement engagés. Et ils étaient même excellents en toutes choses, notamment leur foi. Paul ne semble pas douter de leur foi, de leur confiance à Dieu. En parole, c'est-à-dire s'ils pouvaient annoncer l'évangile, s'ils pouvaient témoigner, en tout cas, leur témoignage ne prêtait à aucune confusion. En connaissance, ils étaient excellents et même en zèle à tous égards. Les croyants de Corinthe, c'étaient de bons croyants. Mais ici, l'apôtre Paul les exhorte à exceller dans l'œuvre de bienfaisance. Ces bien-aimés avaient, il y a lieu même de croire que c'était eux qui avaient initié la collecte. Ils avaient initié cette collecte parce que l'apôtre Paul dit que Tite vient d'être engagé pour achever l'œuvre de bienfaisance chez eux, comme il avait commencé. Et au verset 10, il dit, vous avez eu la volonté dès l'année dernière. Ils avaient commencé. Ils avaient manifesté la volonté de procéder à la collecte. Probablement même avant les églises de la Macédoine. Mais un relâchement a été observé. Un relâchement a été observé. C'est pour cela que Paul les invite à vérifier l'authenticité de leur amour pour le Seigneur et pour les frères. Il les exhorte à réexaminer. Est-ce que vraiment vous êtes sincères? C'est pour cela qu'il dit au verset 8, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. La sincérité de votre charité. Voyez comment les autres, ceux de Macédoine, ont démontré leur amour. Dans leur pauvreté extrême, ils ont insisté pour participer à la collecte et ils sont passés à l'action. Alors, frères et sœurs de Corinthe, est-ce que votre charité, votre amour est sincère? Est-ce que c'est authentique? Vous qui avez commencé, vous qui en avez exprimé la volonté, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis l'année dernière, vous avez eu la volonté. Vous avez même commencé à agir depuis l'année dernière. C'est ce qu'il leur dit au verset 10. Alors ici, l'apôtre Paul leur présente son témoignage par rapport aux églises ou pour les églises de la Macédoine. Mais aussi, il leur donne le modèle de Jésus-Christ qui, pour vous, nous dit le verset 9, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il s'est fait pauvre. Un modèle, un deuxième modèle, en plus ou à côté des croyants de la Macédoine, considérez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, considérons que Jésus-Christ, pour nous, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que, en lui, nous soyons enrichis. Tel est le message que Paul adresse aux Corinthiens et qu'il nous adresse aussi ce matin. Tout en soulignant dans la partie suivante que vous avez eu la bonne volonté. C'est bien d'avoir une bonne volonté. Mais, je vous invite à accomplir selon vos moyens ce que vous avez eu dans votre cœur. La bonne volonté est bonne, mais il convient de passer à l'action. Elle doit se matérialiser. Vous avez eu l'empressement à vouloir. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Mais l'apôtre Paul dit, comme pour expliquer que je ne suis pas là pour vous donner un ordre. Au verset 12, il dit, la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable et elle est agréée en raison de ce qu'elle peut avoir en sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Pour dire, je ne vous contrains pas de donner ce que vous n'avez pas. Je ne vous demande pas de vous dépouiller comme cette veuve dont Jésus a parlé dans Marc 12. Ce n'est pas ce que je vous demande, ce n'est pas ce que je vous prêche. Il y a un frère qui a dit hier, ah, il y a des églises qui prêchent tellement sur les offrandes au point que les gens rentrent à la maison pour vendre leurs appareils, leurs télévisions, des parcelles, ils apportent des certificats de parcelles, ainsi de suite. Alors, ces églises dépouillent leurs fidèles. J'ai répondu à ce frère que Jésus avait apprécié cette pauvre veuve. Il n'a pas considéré qu'elle avait mal agi. Et donc, donner de son nécessaire pour l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas une mauvaise chose dans la mesure où Dieu vous a convaincu au-dedans de vous, dans votre cœur, si Dieu vous a parlé et qu'il vous a demandé de vendre tel bien, de donner tel bien, il ne faut pas hésiter de la donner. Seulement l'évangile que Paul présente aux Corinthiens et que nous vous prêchons ce matin, ce n'est pas un évangile qui vous demande de donner pour vous exposer à la détresse. Parce que si vous tombez dans la détresse, alors vous ne serez plus en train de donner avec joie. Ce sera par contrainte et avec tristesse. Or, les Saintes Écritures déclarent que nous devons donner sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. La détresse nous rend vulnérables par rapport au murmure, au mécontentement et aux lamentations. Assistez, apportons nos offrandes, construisons le temple parce que le Seigneur nous le demande. Et ceci sans tristesse ni contrainte, sans murmure au-dedans de nous. Pour terminer, chers frères et sœurs, je nous invite à nous examiner. Ma manière de servir le Seigneur avec mes biens, est-ce qu'elle prouve la sincérité de mon engagement et de mon attachement à lui? Mon offrande, démontre-t-elle, prouve-t-elle que je suis sincère? Dans mon attachement, dans mon engagement pour Christ, inclinons nos têtes, examinons-nous. Tu te connais, tu sais ce que tu apportes comme offrande, tu sais comment tu participes à l'œuvre de Dieu avec tes biens. Est-ce que je suis sincère Est-ce que je suis authentique? Est-ce que mes offrandes prouvent que, en tout cas, je suis engagé? Si l'Esprit t'a parlé et t'a montré qu'il convient que tu améliores ta manière de servir le Seigneur avec tes biens, tu peux te tenir debout. Est-ce que tu veux améliorer ta façon de servir le Seigneur avec tes biens? La question suivante que je nous invite à nous poser, l'empressement que j'ai mis à vouloir, l'ai-je traduit en action ou me suis-je relâché? Pendant près de 2 semaines, nous avons suivi des enseignements sur la manière de servir Dieu avec nos biens. Après avoir suivi un enseignement, voici, nous sommes maintenant au 2e dimanche. Après avoir suivi ces enseignements, n'avez-vous pas pris un engagement dans lequel vous avez dit, « Ah, désormais je vais commencer. Je ne sais pas à donner la dîme, à donner mes offrandes d'action de grâce. Je vais commencer à exprimer ma reconnaissance à Dieu par mes offrandes. Désormais, je vais commencer à servir Dieu avec mes biens. J'avais souscrit pour le budget et j'avais dit au Seigneur, si tu me donnes tel montant, je le donnerai pour l'œuvre au sein de l'Église. Le Seigneur t'a donné peut-être juste cela. Et tu as vu encore d'autres besoins qui ont surgi. Et tu as dit, bon, je vais donner plus tard. Après avoir suivi ces enseignements, maintiens-tu ta position et dis, bon, Dieu aussi, il comprend. Alors que lorsque tu avais pris l'engagement, tu avais demandé que Dieu te donne. Et il t'a donné. Parce que nous ne pouvons tromper Dieu. Tu as eu de l'empressement à vouloir. Mais maintenant, au moment de passer à l'action, est-ce que tu es passé à l'action? Est-ce que tu veux aussi demander pardon à Dieu parce que tu n'as pas réalisé ce que tu voulais? Bien que Dieu a été fidèle, tu as manqué de fidélité, toi. Veux-tu demander pardon à Dieu et renouveler ta consécration, ton engagement? Tu peux aussi te mettre debout. Lorsque nous demandons que tu te mettes debout, c'est juste pour que le serviteur de Dieu puisse prier pour toi et t'aider à réaliser cet engagement. Et si personne ne se met debout, alors nous allons passer à l'étape suivante. Il n'y a personne et nous rendons grâce à Dieu. Tu es là? Oui, je vois un frère qui se tient debout. Pasteur Jules, tu peux te tenir devant l'assemblée pour prier pour celui-là. Reste debout, frère. Le pasteur va prier pour toi.